étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close. Qui donc pouvait être ces gosses, cette invasion?
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30 à peu près, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 21e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B l'auteur saône-et-loirien Christophe Royer, dont le dernier roman « Famille décomposée » est paru aux éditions Tornada le 18 janvier 2024. Christophe, bonsoir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Alors, tu préfères le mot « auteur », « écrivain » ou « romancier » lorsqu'on te présente?
Alors moi, clairement, c'est romancier. Moi, j'écris des histoires. Voilà, moi, j'aime bien m'embarquer dans la lecture. C'est pour m'évader, c'est pour apprendre des choses. Mais en priorité, c'est l'histoire. Donc, un romancier, ça me va parfaitement.
Bien. Alors, lorsqu'on parle littérature et qu'on parle du Creusot, on pense inévitablement à Christian Bobin, né comme toi dans cette ville, connue pour ses industries sidérurgiques et l'entreprise Schneider en particulier. On apprend forcément à lire avec ses livres, ceux de Christian Bobin.
Alors moi personnellement non, parce que c'est plutôt de la poésie, donc c'est une lecture un peu particulière, c'est un univers particulier, il faut être un peu initié, parce que c'est ce qu'il écrit n'est pas forcément facile à lire de la première approche, donc non, je me suis pas, j'ai pas beaucoup lu de cet univers-là.
Alors justement, quelle avait la place de la lecture et de l'écriture lorsque tu étais enfant et adolescent?
En fait, j'ai commencé très 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 tôt à avoir un livre entre les mains ou une bande dessinée. J'ai tout le temps été embarqué très tôt avec les journaux de Mickey, avec les Tintins, les Astérix. Très naturellement, j'ai un peu éclusé toute la bibliothèque rose, verte. Et puis après, quand j'ai grandi, en fonction de l'âge où j'étais, c'était San Antonio. Quand la puberté est arrivée, je suis passé à SAS. Voilà, on est dans des univers qui ont évolué au fur et à mesure avec en filigrane, un petit peu la littérature de Stephen King qui m'a bercé très tôt et qui continue à me bercer au quotidien.
Alors, tu as un parcours, toi, plutôt scientifique?
Oui.
Un doctorat en physiologie animale et plusieurs diplômes en informatique?
C'est ça. J'ai un parcours, j'appelle ça mes différentes vies. C'est vrai que j'ai eu une première vie où j'étais dans le domaine de la recherche, avec ce doctorat qui m'a permis de travailler sur des choses très intéressantes et j'ai disséqué un paquet de cerveaux. Et puis après, comme dans la recherche française, on forme de super docteurs, de super chercheurs. Et puis, sauf que derrière, il y a une place pour 10. Et si on veut continuer la recherche, il faut partir à l'étranger. Et j'ai fait le choix de rester pour X ou Y raison. Donc, j'ai basculé dans l'informatique.
Alors, déjà, à cette époque, tu avais envie de raconter des histoires?
Le fait que je lisais énormément et fan de jeux vidéo... j'avais en permanence des histoires qui tournaient dans ma tête, ouais, effectivement. Et une soirée assez arrosée, 4h du matin dans une discothèque avec un ami, on s'est dit, mais pourquoi on n'écrirait pas, on n'enverrait pas une idée de jeu vidéo à une maison de jeu de vidéo. Et cet ami se chargeait donc de tout ce qui était graphique, hein, ça parlait un peu de science-fiction, et moi je m'étais chargé du scénario. Donc j'avais écrit une dizaine de pages, et puis après ça n'a jamais été plus loin.
D'accord. Alors, quand as-tu envie de raconter tes propres histoires et puis les raconter plus en longueur, je dirais?
À un moment donné, après la frustration de savoir qu'aucune maison n'avait répondu, même si, bizarrement, il y a un jeu qui est sorti quelques années après qui ressemblait beaucoup. J'avais cette histoire. Je trouvais que le scénario de base était très bon. Et je me suis dit, pourquoi pas l'agrandir et en faire un roman entier. Donc, à l'âge de 35 ans, je me suis dit, allez, ça y est, j'en ai marre de lire les histoires des autres. J'ai envie de lire une histoire qui va m'embarquer. Et puis, j'avais aussi le projet de mettre un livre sur la bibliothèque, sur le rayon de la bibliothèque de mon fils pour dire, bah voilà, bah, j'ai envie d'avoir un bouquin qui va peut-être lire. Et puis, voilà, laisser une espèce de petite trace au sein de la famille. Voilà, c'est cet objet un peu symbolique en disant, voilà, j'ai écrit un bouquin. Et à 35 ans, j'ai commencé, ça a été une catastrophe, je me suis arrêté très vite au bout de 50 pages. J'ai laissé tomber, j'ai repris à 40 ans, là j'ai écrit une centaine de pages, j'ai laissé tomber. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, 45 ans, je ne sais pas, j'étais mature, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, bah, le tome 1 de mon roman d'anticipation, il est sorti en quelques mois. Et ça a été le démarrage de l'écriture. Et après, il a fallu avoir le tome 2. Et après, j'étais pris au piège de l'écriture et de raconter mes propres histoires. Et jusqu'à maintenant, bah, je suis toujours bien infecté par cette maladie.
À Lyon, tu donnes des cours à l'ECCAR, c'est ça?
Oui.
Tu donnais,
oui.
Ouais, toujours?
Oui, oui, c'est une école de...
Internationale de création audiovisuelle et de réalisation.
C'est ça.
Ça a un rapport avec l'écriture?
Cinéma, télévision. Oui, parce qu'en fait, ils ont plusieurs filières. Hein. Ils ont toutes les filières techniques, que ça aille du monteur de son, au maquillage, au costume, et ce genre de choses. Mais ils ont également une filière scénariste. Et j'interviens dans cette filière scénariste en particulier pour leur expliquer un petit peu, parce qu'ils ont bien cet univers des scénaristes, mais ils n'ont pas du tout la notion de comment ça se passe si on veut écrire un livre. Et donc je leur explique comment ça se passe au niveau de cette jungle particulière qui est l'écriture, et puis après qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a écrit un livre.
Alors en 2017, tu as fait paraître en auto-édition donc deux tomes d'un roman d'anticipation, le projet Sapiens ou Sapience ?
La Sapience, oui.
Sapience.
Ouais, les Sapiens, ça, c'est les hommes.
D'accord, la Sapience.
Et donc la Sapience, c'est autre chose.
Ouais. Une planète où la vie est présente et que deux vaisseaux vont explorer. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ces deux tels romans ? Quels auteurs, quels livres, quels films, quels réalisateurs ?
Oula.
Oui, ça fait beaucoup, ça.
Ouais. Ça fait... Ouais, c'est vrai que je lis beaucoup de choses, hein, un peu comme la musique qu'on a vu tout à l'heure. Je lis beaucoup de choses différentes qui vont de la science-fiction, de la fantasy, de l'horreur, de la terreur, des thrillers, etc. Et c'est vrai que j'ai été marqué par un auteur qui s'appelle David Brin, qui a écrit 5-6 bouquins avec cette notion d'espèce animale qui va s'élever vers un autre statut. Et de par ma formation, j'ai fait aussi pas mal de biologie moléculaire où j'ai fait des manipulations génétiques. Donc tout ça rassemblé, eh bien, j'avais envie de construire une histoire où on va être obligé de modifier des organismes pour les adapter à une nouvelle planète. Et ça donnait plein d'idées différentes, et donc ce projet Sapiens qui est sorti entre 2017 et 2020.
Donc après deux romans d'anticipation, tu te lances dans l'écriture d'un thriller. C'était la suite logique ?
Bon, en fait, comme je suis multiverse, je me suis dit, je ne vais pas écrire toute ma vie de science-fiction. Et j'ai dit, j'ai fait de science-fiction, je vais passer au thriller. Et j'avais un thème particulier que j'avais envie de coucher sur le papier. Et le thriller permet, en fait, ce genre littéraire permet vraiment de pouvoir, c'est ce que je dis souvent aux lecteurs que je rencontre, c'est que on se sert de ce thriller, mais après, on y met ce qu'on veut, quoi. On peut y mettre de l'historique, on peut y mettre de l'ésotérisme, on peut y mettre juste une super enquête policière. En fait, on peut vraiment... C'est un genre qui peut permettre beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est bien pour ça que chaque auteur va avoir son propre univers et qu'il n'y a pas deux thrillers pareils. Et ce qui permet... Et ça, c'est assez bien apprécié des lecteurs.
Ouais. Ouais. Donc, on te retrouve 2 ans plus tard aux éditions Tornada, à la ligne éditoriale, à savoir science-fiction, fantastique, thriller et policier, proche de l'univers de tes deux premiers romans. Finalement, tu ne pouvais pas tomber mieux.
C'est ça. C'est une super rencontre. D'ailleurs, elle s'est déroulée au Creusot. C'est la première fois que je croisais l'équipe de Tornada. Je n'étais pas encore chez eux. Mais j'ai eu la chance de croiser Estelle Tarot, qui est une brillante autrice du côté de Besançon, qui était déjà chez eux et qui a eu un coup de cœur pour Lésion Intime, mon premier thriller. Et elle a dit, il faut absolument que vous le lisiez. Et puis bon, ça s'est fait très vite. Et finalement, je suis passé de l'auto-édition à l'édition avec Tornada.
Est-ce que tu avais beaucoup de choses à travailler, à corriger pour pouvoir signer et être édité chez Tornada ?
Non, bah, en fait, comme il avait déjà été édité en auto-édition, il y avait déjà une première couche qui avait été réalisée. Effectivement, il y a eu un travail éditorial avec l'éditeur après pour le faire rentrer dans les canons de l'édition de l'époque et puis corriger mes multiples fautes et étourderies.
Dans ton premier thriller, donc Liaison intime, paru en 2019, apparaît le personnage qui est finalement récurrent, Nathalie Lesage.
Oui, on le retrouve dans 4 des 5. Ouais.
Voilà, à la base, capitaine au sein de la brigade de répression du proxénétisme. Alors, pourquoi une femme ?
Parce que ce qui lui arrive ne peut pas arriver à un homme. Donc, voilà, le grand tournant du livre, le chapitre où tout le monde reste un peu scotché à un moment donné, forcément, ça ne pouvait pas arriver à un homme. Et puis, donc, c'est un sujet que je voulais traiter, donc je ne peux pas trop le citer, sinon ça spoil un peu. Mais voilà, donc c'était quelque chose un peu comme une espèce de thérapie. Et donc, je voulais vraiment parler de ce profil psychologique, de ce traumatisme que peuvent avoir certaines personnes subies au cours de leur vie et qui réapparaît d'un seul coup d'une manière très originale et très violente. Et c'était un petit peu dans cet univers-là. Donc forcément, c'était une femme à qui ça devait arriver.
Est-ce que c'était une évidence, ce personnage récurrent ? Tu voulais faire comme quelles autrices, comme quel auteur ?
Non. Alors c'est vrai que mes lectures entre Fred Vargas, le commissaire Marcas avec Giacomo Tiravene, enfin voilà, Thiers avec Charcot et autres. Mm-hmm. Non, alors franchement, en plus, quand on écrit son premier thriller édité, on se dit pas que son héroïne va être dans le suivant, quoi. Ouais. Et ça s'est fait au fur et à mesure.
Mm-hmm. Ouais. Alors, comment travaille-t-on un personnage comme Nathalie Lesage ? C'est une femme, elle est policière, elle a un caractère bien trempé, elle n'a pas froid aux yeux, et une façon bien à elle de concevoir le métier de policier.
Oui, en fait, elle a des valeurs de justice, elle a des valeurs de découvrir la vérité, on va dire assez classique. Hein, c'est quelqu'un qui est assez engagé. Et en plus, forcément, avec ce statut de femme qui a des responsabilités en tant qu'enquêtrice, forcément, surtout dans les liaisons intimes, elle se trouve confrontée souvent à du machisme, à ce genre de choses. Et elle se sent, alors qu'elle ne devrait pas, elle est toujours obligée de prouver... comme quoi elle est peut-être aussi forte, voire plus forte que les autres. Et donc, ça la rend souvent intrépide, elle casse un petit peu la loi, elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire, et ce qui fait que ça la rend... alors, on la surnomme souvent, de la part des lectrices, attachante. C'est-à-dire qu'elle est sympa, mais elle est un peu casse-bonbon. Voilà. Donc, c'était ce côté, cette dualité qui m'intéressait. Et puis, on comprend mieux en apprenant, parce que dans le premier, on a vraiment cette enquête professionnelle dans les milieux de la nuit parisien, mais on a également en parallèle cette enquête personnelle du côté de Monceau les Mines. Et donc, on a cette bascule régulière entre Monceau les Mines et Paris, et on s'aperçoit que ce qui a pu se passer dans les soirées parisiennes à Monceau les Mines, durant une certaine période, c'était pas mieux, voire pire.
C'est ta part féminine qui est ressortie, là ?
Oui. Après, je pense que tout le monde a cette part-là plus ou moins enfouie. Moi, je sais que j'ai aucun souci avec ça. Et puis surtout, c'est que depuis 35 ans, je suis avec une femme, qui est très sensible à tous ces sujets. Et donc, je baigne dedans depuis 35 ans. Et donc, je suis très à même de toutes ces problématiques qui sont très importantes pour elle et pour moi. Et donc c'était important que dans mes romans, c'est des héroïnes. C'est vrai que dans les 5 premiers, c'est des héroïnes, mais promis, je me soigne.
Non,
dans,
obligé, hein.
Dans le prochain, il y aura des héroïnes, mais il y aura aussi des héros.
Dans ton roman Une arête dans la gorge, paru en 2021, Nathalie Lesage est mutée assez rapidement à Lyon. C'était plus simple pour toi ? Elle t'a suivi géographiquement parlant ?
Non, pas du tout. Non, parce que j'étais déjà à Lyon pour le premier. Non, c'est qu'en fait, même si j'ai une héroïne commune, c'est que j'aime bien emmener les personnes, les lecteurs, dans des univers complètement différents. Et forcément, comme j'avais des choses qui m'avaient marqué et découvert sur Lyon, et j'avais envie de parler de ces fameuses arêtes qui, à l'époque, n'étaient pas aussi connues que ça commence à l'être maintenant. Et voilà, c'était un peu mon côté ésotérisme, donc avec un mélange, avec des francs-maçons, des univers qui sont mal connus des personnes, dont chacun a un peu sa vision positive ou négative sur ces sociétés secrètes. Et j'avais envie, donc, forcément, à Lyon, c'est la capitale, de ce genre de sociétés secrètes. Et donc... tout naturellement, ça me paraissait évident de mettre Nathalie. Et comme elle voulait quitter les milieux parisiens et plus travailler aux répressions du proxénétisme, elle voulait retrouver ses premiers amours qui étaient la criminelle. Et là, elle a été mutée à Lyon.
Voilà, donc Nathalie Lesage n'est plus capitaine, mais commandante. C'est et ça. Travaille donc à la criminelle à Lyon. Tu avais besoin qu'elle prenne de l'avancement. Elle aurait pu continuer comme capitaine.
Ça, on ne m'a jamais posé cette question. Bon, en fait, quand elle est sur Paris... même si l'enquête est très, très, très compliquée pour elle émotionnellement à la fin, elle a quand même fait une sacrée découverte et un bon coup de filet dans cette organisation. Et donc, pour la récompenser, elle a eu cette promotion. Ouais.
Alors, dans une arène dans la gorge, il est déjà question de société secrète, d'histoire et de science dans un lion ésotérique. Il n'y a pas que le personnage de Nathalie Lesage qui est récurrent dans tes romans. Les sciences occultes sont très présentes chez toi. Alors, d'où se vient ce goût pour tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme ?
Je fais attention de ne pas trop en mettre. Dans mes lectures, c'est vrai que ça fait partie de mes lectures. Dan Brown, Giacometti Raven, c'est des choses qui font partie de mes livres de chevet. Et je trouve très intéressant d'avoir on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux ou Internet. Il y a tellement de haine et de violence qu'on se dit, mais derrière, qu'est-ce qui est vrai ? Et quoi de mieux que de faire des recherches et avoir sa propre opinion. Et c'est vrai que c'est un côté un peu magique. On a beau avoir la technologie qui progresse tous les ans, on a quand même toujours... besoin d'avoir des gens qui font tourner les tables, de parler aux esprits. Et alors qu'on n'a toujours pas prouvé que ça n'existait pas, mais en même temps, apparemment, on ne peut pas le prouver. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, je suis scientifique, mais je suis ouvert et j'écoute et je trouve ça passionnant. Parce que forcément, je parle avec des personnes qui y croient et c'est assez passionnant. Et ça m'a toujours attiré. Et puis, il y a le côté secret, tout simplement. Donc, quand j'ai été lever le voile chez les francs-maçons lyonnais, c'était fort intéressant. Ouais.
Donc, après une infidélité à Lyon, puisque tu es avec
la quatrième
feuille. La quatrième feuille qui se passe à Annecy. Donc, tu reviens à Lyon avec ton dernier roman en date, Famille décomposée, paru le 18 janvier 2024, toujours aux éditions Tornada. Peux-tu, sans trop en dire, nous a raconté l'histoire, mais ça veut dire de raconter l'histoire sans trop en...
Oui, en quelques mots, c'est un petit peu la mode en ce moment, on est à la manière de Monte Cristo. On a une famille lyonnaise qui subit les foudres d'un groupe mystérieux qui a décidé de démanteler réellement chaque membre de la famille, de cette famille lyonnaise, apparemment parce qu'elle a des secrets. Et plus particulièrement parce qu'elle a des secrets de famille. Donc, le rôle de Nathalie Lesage et de sa brigade, ça va être de protéger cette famille, découvrir pourquoi on leur en veut autant, et puis essayer de mettre la main sur ce mystérieux groupe d'individus assez, assez violents. Ouais.
Alors, une fois de plus, il est question d'histoire avec un grand H, et puis de mystère, puisque plane dans ton roman l'ombre de Rasputin, un personnage historique qui continue à intriguer et stimuler l'imaginaire collectif. C'était une évidence de retrouver un tel personnage mystique dans un de tes romans ?
Au départ, pas forcément. En plus, quand j'en parle, les lecteurs sont toujours surpris en disant « Mais Rasputin, on est en 2024, et en plus, qu'est-ce qu'il vient faire à Lyon ?» Et je dis « Lisez le livre, vous allez comprendre qu'il y a un lien particulier. » Et en particulier, il y a une période, Rasputin était en concurrence directe avec un médium célèbre lyonnais. Ça permet aussi... moi, j'ai toujours été fasciné par Rasputin, que j'ai découvert en lisant les bandes dessinées de Corto Maltese, avec... ça y est, j'ai le trou. Corto Maltese, c'est...
Oh là là, oui.
Zut. Voilà. Ça va revenir. Voilà, donc on avait ce personnage hirsute qui arrivait régulièrement dans les albums, qui venait très sauvage, très violent, en même temps sympathique, et qui repartait. Et ça m'a toujours, il m'a toujours interrogé, celui-là. Et puis au bout d'un moment, je dis, mais il va falloir que je creuse le sujet. Et donc, je me suis payé des documentaires audio, j'ai lu deux biographies, enfin bon, le travail habituel que je fais de recherche, qui est très très long. Et son histoire, sa vie m'a passionné. Et jusque dans sa mort, quoi, c'est vraiment, on peut en faire un grand film, c'est assez incroyable. Et puis finalement, à force d'avoir mes différents morceaux de puzzle, eh ben ça, Rasputin, ça semblait parfaitement à mon scénario, donc, je l'ai mis dedans et j'en suis très content.
Donc on parle de Rasputin. À Lyon, il y a Nizier, Anthelme. Anthelme, oui, Anthelme, on dit Anthelme ou Anselme ?
Oui, je sais.
Je sais plus. Anthelme, on est en France. Philippe, alias Maître Philippe, un prophète et charlatan qui fit tant parler de lui qu'il se fraya une place dans la cour de Russie auprès du tsar Nicolas II et de son épouse Alexandra quelques années avant Rasputin. Tu as fait sa connaissance comment ?
Qui ça ?
De Maître Philippe.
Pareil, en fait, quand j'ai écrit Une arène dans la gorge pour faire mes recherches, j'ai eu la chance de rencontrer un journaliste qui travaillait avant à la télévision de Lyon et qui est un grand fan de tout ce qui se déroule sur Lyon et il est également guide touristique. C'est le genre de personne qui va vous emmener en fraude dans les cimetières la nuit, c'est la personne qui va vous faire rencontrer et raconter toutes les petites histoires étonnantes de Lyon. Et donc, quand je travaillais sur la franc-maçonnerie, il avait pas mal d'informations par rapport à ça. Et dans ces différents entretiens, il venait accompagné avec une dame. Bon, ok, il vient avec une dame, ça marche. Et on a discuté, et il m'a donné plein d'informations, en particulier sur les arêtes de poissons qui, à l'époque, il avait passé quelques nuits dedans. Et de fil en aiguille, c'est un peu comme ça qu'on fait des recherches. En fait, on travaille sur le thème qui nous intéresse pour le livre en cours, mais on a tout le temps l'esprit ouvert pour commencer à penser au suivant. Et donc, cette dame commençait à parler et on disait quels sont les sujets qui seraient intéressants. Et c'est là qu'elle s'est mise à parler donc, de Maître Philippe, ce médium lyonnais qui est assez incroyable. Ça a été comme ça, je l'ai mis dans un coin de ma tête. Et puis, au moment donné, quand j'ai eu besoin pour la famille décomposée, on s'est revus et puis là, on a creusé un peu plus ce sujet.
Donc, Maître Philippe est enterré au cimetière de Loyasse. Sa tombe est un lieu de pèlerinage très fréquenté par les amateurs du genre.
Oui, oui, oui. Hein, ah ouais.
Donc, les fans de miracles et de mysticisme ont forcément fait le lien entre Maître Philippe et Rasputin.
Oui, parce que effectivement, comme je disais tout à l'heure, il a eu vraiment eu à un moment donné, Maître Philippe est parti en Russie. C'était la période où l'impératrice n'arrivait pas à avoir de garçon. Et par cousinade, on lui a dit qu'effectivement, il y avait un médium très fort du côté de Lyon. Et il est venu et effectivement, il y a eu la naissance de ce garçon. Mais comme Rasputin était derrière, poussé par... c'était un peu l'espion, la personne qui donnait un petit peu... qui essayait un peu de diriger le tsar. Apparemment, c'est à cause de lui que ce garçon n'est pas en super forme. Et en fait, il fait croire que c'est grâce à lui qu'il arrive à maintenir en vie ce fils tant désiré pour la descendance. Et après, Maître Philippe est revenu sur Lyon. Et ça n'a pas duré très longtemps. Je crois que ça a duré un an et demi, deux ans, du coup, son aventure russe.
Ouais. Donc, dans ton dernier roman, il est question d'une famille décomposée, la famille d'aventure. Une famille pas comme les autres, ça a été facile de ne pas t'y perdre, c'est une famille très compliquée.
Non. Pourquoi compliqué ? Non, c'est malheureusement, c'est comme souvent dans les familles, c'est pour les auteurs, c'est vrai que la famille, c'est le huis clos où se passent les choses les plus secrètes, les plus souvent, malheureusement, les plus dures, les plus inconcevables. C'est une mine d'inspiration pour les romanciers. Et effectivement, cette famille... c'est vrai qu'elle cumule un peu. Elle cumule un peu entre leur activité un petit peu secrète, entre les délires de chacun. Et puis, après, c'était un petit peu le but du jeu, quoi.
Ouais. Alors, avec tes romans qui se passent à Lyon, avec tout ce mysticisme qui entoure la ville, on n'est pas loin de l'esprit des deux premiers romans que tu avais écrits, sauf qu'au lieu de partir dans le futur, on revient dans le passé.
Ouais. J'aime bien ces temporalités et j'aime bien jouer et justement piéger le lecteur, parce que le but du jeu, c'est qu'il tombe de sa chaise, de son fauteuil ou de son lit quand il apprend à la fin, quand il connaît toutes les réponses aux questions que je pose dans chaque livre. Et effectivement, on va pouvoir essayer de le perdre avec plein de... Et la temporalité permet de perdre, par exemple, dans Néréide, je scotche le lecteur avec quelque chose qu'il ne s'attendait pas en plein milieu, et on se dit « Oh, l'enfoiré, il m'a bien eu !» Et on comprend, et voilà, et après on avance, et j'adore un peu à la Nolan, d'ailleurs... Le prochain que je suis en train d'écrire, on m'a dit, ouais, alors peut-être pas aussi torturé, mais voilà, avec cet esprit-là de temporalité parallèle, mais qui ne se passe pas au même moment. Ouais.
Entre science-fiction et thriller, ton cœur balance encore aujourd'hui ?
C'est même pire que ça, ouais. En fait, je suis un peu frustré parce que mon emploi du temps ne permet pas d'écrire 2 livres par an. Mais. En tout cas de gros romans par an, donc je continue sur ma ligne de thriller, mais ça va faire au moins 4 ans que j'ai un roman fantastique pour adultes dans la tête, et puis ça ne m'empêchera pas quand même d'écrire des romans un peu plus petits pour la jeunesse et pour d'autres choses, mais fantastique, science-fiction, on me demande régulièrement un tome 3 de Projet Sapiens. Mais c'est ce que je leur dis, bon, on va attendre que j'ai plus besoin de travailler dans l'informatique pour avoir du temps pour écrire un peu plus, quoi.
Nathalie Lesage fera-t-elle prochainement son retour ou, comme pour la quatrième feuille, tu lui feras une nouvelle infidélité ?
Bah ouais, je vais être infidèle. C'est vrai que dans la quatrième feuille, même si c'était une autre héroïne, ouais, on va laisser Nathalie se reposer. C'est vrai que ça fait une tétralogie. Pour ceux qui ont lu les quatre, on voit qu'il y a eu une sacrée évolution au niveau de son évolution psychologique. Donc là, on la quitte en disant avec un grand sourire par rapport aux autres livres, c'est plutôt agréable. Et donc, j'ai envie de partir sur autre chose. Et on va partir complètement avec un groupe de personnes. Et puis, un espèce de personne là, qui vit à bord d'un bateau et qui semble avoir une mission d'éliminer des personnes qui sont photographiées sur une photo.
Bien. À côté séance de dédicace, toi tu adores aller à la rencontre de tes lectrices et de tes lecteurs. C'était déjà le cas lorsque tu étais simple lecteur. Tu aimais rencontrer les autrices et les auteurs ? Est-ce que tu le faisais d'abord ?
Non, c'était... En fait, l'écriture m'est vraiment tombée dessus très tardivement. Et avant ça, je n'étais pas forcément intéressé parce qu'en fait, je fais beaucoup de choses avant d'avoir basculé complètement à l'écriture. J'étais plutôt dans la musique et donc j'allais plutôt au concert et non pas à des salons du livre. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure, en commençant par le Creusot. Ouais, et c'est quelque chose qui est vite rentré dans ma vie et j'ai commencé à écumer les salons autour de moi et plus ça va, plus les salons sont éloignés.
Et maintenant que tu es de l'autre côté de la table, tu es à l'aise avec ton public ?
Ouais, ça c'est le côté que j'adore. Ouais, c'est ma femme, elle me voit sur les salons, elle dit mais c'est pas possible quoi.
C'est pas toi ?
Si. Justement, elle sait que voilà, je suis quelqu'un qui est un petit peu renfermé et qu'il faut un bout de temps avant que je commence à rire, à échanger et à être à l'aise. Et c'est vrai que quand je suis sur un salon ou en dédicace dans une librairie, c'est une bouffée d'oxygène. Je suis super content et le contact est super facile et c'est vrai, ça se passe toujours super bien, quoi.
On te voit régulièrement donc dans les salons dédiés au polar. Hein, je pense à Iris Noir, Cépage Noir, L'automne sera noir, tout ce qui est noir. Les forges obscures, le coquelicot noir, le chien jaune, ah tiens, escargot noir ou terme noir, oui, décidément. Ouais. La liste serait trop longue à énumérer. Tu as l'impression de faire partie d'une famille.
Clairement, c'est vrai qu'à force de faire tous ces salons, on va rencontrer un petit peu toute la crème des auteurs de thrillers et autrices de thrillers. Hein, faut pas les oublier, les autrices, parce qu'il y en a un paquet, ils font des super bouquins. Et c'est vrai qu'on se croise très régulièrement. Et comme il y a toujours ces ambiances un peu particulières et très chaleureuses dans ces salons noirs, eh ben, on a vraiment une solidarité entre nous qui fait que qui se caractérise par des super soirées et on va pas regarder le voisin parce qu'il a vendu plus, mais on attend plutôt qu'il y ait un trou pour aller boire une bière. Voilà. Donc il y a vraiment cette mentalité. Et autant il y a effectivement il y a une espèce de tribu, mais cette tribu, les lecteurs et lectrices sont incorporés dans ces tribus. Et on a tout le temps des grappes de youtubeurs ou de personnes qui d'influenceurs qui sont là et qu'on retrouve chaque année sur les différents salons et à chaque fois c'est vraiment des moments de plaisir et de joie. Ouais.
Alors, avec qui as-tu bien sympathisé ou plus particulièrement sympathisé?
Ouais, bah je dirais que parmi ceux avec qui il y a Gérard Coquet, il y a Sébastien Julien, il y a Xavier Massé, Nicolas Nuten, Magali Collet, Isabelle Villain, Estelle Tarot. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de personnes de Ternada, mais non, mais après il y a tous les autres. Hein. Je croise très régulièrement Alexis Lepsker, Anouk,
Schutterberg.
Mmh. Voilà. Et puis c'est marrant de croiser des personnes qu'on a lues pendant des années et puis maintenant on mange des McDo ensemble, que ce soit Ellery, le grand auteur anglais là. Et c'est génial et on fait vraiment partie d'une famille. Bon après hein, c'est comme dans n'importe quelle famille, hein, y en a avec qui ça accroche plus ou moins, mais dans la grande majorité c'est plutôt des super moments et comme on dit à chaque fois qu'on fait un salon, ce qui se passe dans le salon reste dans le salon. Quoi.
Le lendemain matin on sait ce qui s'est passé.
C'est ça.
Enfin, on sait, ouais, voilà. Donc dans les salons on fait des rencontres, on aime. Je le disais, donc tu ne fais pas que des salons du polar, oui, je voulais dire. On te retrouve dans des salons du livre, des librairies ou des médiathèques. C'est très chronophage. Alors, quand on aime, on ne compte pas.
Ouais, c'est ce que je disais encore l'année dernière. Mais si je ne veux pas me retrouver un jour avec la valise sur le devant de la porte, parce que bon...
L'hôtel, ouais.
La semaine, voilà, je travaille avec des déplacements sur Lyon. J'ai l'école en plus. Et donc, quand je dis à ma femme que je pars pendant 8 semaines de suite, au bout d'un moment, ça peut faire grincer des dents. Donc, l'année dernière, j'avais 2 week-ends sur 3 où je n'étais pas là. Et cette année, j'ai levé un peu le pied, c'est 1 sur 2. Donc, ouais, j'ai fait un effort monumental. C'est vrai que mon agent, si je ne l'arrête pas, elle me remplit tous les week-ends, voire peut-être même le vendredi. Mais voilà, donc après, il y a une vie à côté, une vie familiale, il y a les amis, ça c'est important pour mon équilibre.
Ah donc, tu es bien entouré, hein, ta famille, Nelly, ton agent littéraire, Tornada, ton éditeur, tes lectrices, tes lecteurs, les libraires, les blogueuses et les blogueurs. Finalement, écrire n'est pas une passion totalement solitaire.
On est quand même plus souvent solitaire, mais effectivement, ça, le côté public donne l'impression que c'est très festif. C'est très festif, mais ça gomme pas toutes les soirées où de 8h à minuit, je suis dans mon univers tout seul avec mes angoisses, avec est-ce que ça va être bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est assez bien, est-ce que je suis pas en train d'écrire n'importe quoi, etc. Enfin bon, on a toujours cette sensation et on va pas s'amuser à faire lire à chaque fois qu'on écrit 2 pages autour de soi parce que après c'est pas forcément très constructif aussi. Donc effectivement, pendant ces longues semaines, ces longs mois d'écriture, ce travail tout seul avec son casque, avec sa musique, avec sa bulle, c'est pas évident et c'est vrai que c'est vraiment un soulagement quand on est sur les salons ou en librairie. Ouais.
Bien, tout à l'heure nous évoquions les séances de dédicaces, il est l'heure de passer à la rubrique 4e de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les 4e de couverture. Nous cherchons la même aventure sur les 4e de couverture.
4e de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Christophe, quel est ton dernier coup de cœur littéraire?
En fait, depuis que j'écris, alors avant je lisais facilement un bouquin par semaine. Là maintenant, c'est plutôt un livre tous les 1 mois et demi, 2 mois. Là, je viens de terminer le dernier roman d'Isabelle Villain. J'ai mangé le nom, forcément. C'est une histoire de de disparition du côté du Canada dans les tribus indiennes, assez passionnant. Et on retrouve bien la patte d'Estelle qui aime bien être au niveau d'une commune où tout le monde se connaît et chacun a des secrets que l'autre connaît, etc. Et c'est vrai que c'est un livre qui se lit, ça doit être le festin quelque chose, désolé. Bien. Mais voilà, donc c'était le dernier que j'ai lu et qui m'a marqué, ouais.
Tu nous rappelles l'autrice, ça ?
Estelle Tarot.
Voilà.
Je dis Isabelle Vilain, mais ce n'est pas grave. C'est Estelle Tarot, oui. Dont le livre est également dans la sélection là, d'un prix qui va bientôt arriver au niveau des résultats. Donc, je suis avec elle en concurrence, donc j'espère que...
C'est quel prix ? C'est le prix Dora Suez ?
C'est ça, oui. Je fais partie de cette sélection. Bon, après, je sais qu'ils donnent plusieurs prix, alors peut-être qu'on aura chacun le nôtre, ça serait top. Ouais.
Allez, côté sortie, notons le dernier livre de Jean-David Zitoun, Les causes de la violence aux éditions de Noël, le nouveau roman de Michel Bussy, Les assassins de l'aube aux éditions Presse de la Cité. Michel Bussy, fan ?
J'ai jamais lu.
Ah, tu devrais.
Jamais lu, il faudrait que j'en lise au moins un.
Tu pourrais dire, j'en ai lu au moins un. C'est bien. Je te recommande. Moi, comme toi, j'arrive un petit peu tard. Le livre d'un collectif coordonné par Hugo Paglietta, Extrême droite, la résistible ascension aux éditions Amsterdam. Il y a plein de choses à apprendre qu'on découvre aujourd'hui, c'est marrant. Le premier roman de Léna Pongenard, c'est Pongelard, Une si moderne solitude aux éditions du Penseur, qui sera mon invité le 28 novembre 2024. C'est une burgienne d'origine qui est francilienne désormais. Le nouveau thriller de Nicolas Beuglet, L'ultime avertissement, aux éditions Exo. Un Nicolas Beuglet qu'on ne présente plus.
Non, on ne présente plus.
Et le dernier roman de Donato Carisi.
Ah, on ne vous présente pas non plus.
Voilà, L'éducation des papillons aux éditions Kalman Lévy. Eh bien, roman de gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Christophe Royer, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B.
C'était un plaisir d'être avec vous. C'était un plaisir.
Plaisir partagé. Rappelons que ton dernier roman, dont Famille décomposée, est paru le 18 janvier 2024 aux éditions Tornada. On peut se procurer où, sans oublier les autres romans ?
Partout, que ce soit en numérique, en brochet, sur toutes les plateformes habituelles et dans n'importe quelle librairie, s'ils ne l'ont pas physiquement, il est commandé très très vite.
Ouais. On peut suivre donc ton actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux ?
Tout ça, Insta, Facebook et autres.
Sans oublier le site Internet de ton éditeur, www.tornada.fr.
Exactement.
Christophe, bonne chance pour la suite de tes aventures.
Merci.
De romancier. Bonne séance dédicace et puis... À bientôt sur Radio B.
À bientôt.
À bientôt.
Bonne soirée à tous et à toutes.
Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose.